Chapitre 47. Action d'éclat de la FEMAS. Le lendemain, Paris bouillonnait encore. Un vent d'émeute soufflait sur la grande ville. Depuis l'arrestation de Condé, la haine avait fermenté. Pendant quelques jours, cet acte de vigueur d'une monarchie que chacun jugeait caduque avait fait hésiter la rébellion et bâillonner les malcontents. Puis les colères, un instant comprimées, éclataient maintenant. Ce n'est pas que Paris eût la moindre affection pour le prince de Condé, cet avare, ce ladre. Condé, personne n'y songeait plus, excepté peut-être Capestan. La vérité, c'est que les bourgeois étaient furieux d'avoir à payer les fêtes de Concini et les bénéfices qu'ils distribuaient à ses amis. La vérité, aussi, c'est que le peuple était misérable. Enfin, il faut ajouter qu'au gré des vieux ligueurs, les calvinistes avaient reçu beaucoup trop de faveurs d'Henri IV. Dans ces conditions, Guise réunissait autour de lui les féodaux qui espéraient le retour à leurs anciens privilèges, les catholiques fervents qui espéraient une nouvelle Saint-Barthélemy, la bourgeoisie qui espérait une diminution d'impôts et le peuple qui espérait manger en morceaux de pain à la faveur d'un changement de régime. C'est pourquoi l'on voyait par les rues de ces groupes menaçants, armés de pertuisanes, de mousquets ou de vieux pistolets, alternant les cris de mort avec les vivats. Guise allait sortir, Guise allait marcher sur le Louvre. Guise ne sortit pas. Enfermé dans son hôtel, il discutait avec ses familiers. Son père, lui aussi, avait ainsi discuté dans ce même repaire, un jour où il sut se montrer et agir en loup. Le balafré, ce jour-là, avait à jamais perdu la couronne. Et cependant que le duc de Guise hésitait, Paris lui criait « Au Louvre !» Vers 9 heures du soir, un homme se fraya un chemin, à travers la foule qui piétinait, évoluait, tourbillonnait sur la place de Grève. Nous suivrons l'homme tout empressé qui s'engage dans la rue Saint-Antoine. Avec lui, nous entrons dans un cabaret mal famé et alors nous reconnaissons l'espion de M. de Richelieu, la FEMAS. Dans ce cabaret, il y avait 7 hommes. 6 étaient assis autour d'une table, au fond de la salle, et jouaient au dé, frappant du poing, se disputant avec des jurons à faire frémir un reître. Le 7e était attablé tout seul près de la porte, devant une mesure d'hydromel. C'était un grand gaillard, osseux et maigre, avec des moustaches terribles et des yeux de braise, une physionomie narquoise et dure. À l'arrivée de la FEMAS, il se leva, se découvrit, salua, courbé, son feutre jusqu'au carreau. La FEMAS s'assit tranquillement et l'homme prit sa place en face. Un instant, ils se regardèrent. C'étaient 2 rudes figures de sacripants, mais le brave, avec ses airs féroces, était encore une vision de candeur auprès de la physionomie pétrifiée de la FEMAS. Alors, à voix basse, tic-toc, pif-paf, eut lieu cet entretien. « Tes hommes ?» demanda l'espion de Richelieu. « Ils sont prêts. Vos pistoles ?»« Elles sont prêtes, » dit la FEMAS. « Bon, quand faut-il agir ?»« Tout de suite. » Bon, après, il faudra procéder en douceur et ne faire aucun mal à la donzelle. Il faudra la mettre dans le carrosse qui attend au coin de la rue du Petit Musc. Musc ou muscade, carrosse ou litière, on l'y mettra. Après, le reste ne vous regarde pas. Si l'un de vous cherchait à savoir où va le carrosse, qu'il aille au diable. Les pistoles. Ah, ah, fit la FEMAS. Moitié maintenant, moitié après le départ du carrosse. Très bien, fit le brave qui tendit sa large main. Où sont tes hommes ? Dit la FEMAS avec défiance. Donnez toujours, par tous les boyaux de Saint-Pamphile, mon vénéré patron. La FEMAS sortit de dessous son manteau une bourse de cuir dont il répandit le contenu sur la table. À peine eut-il fait ce geste que les 6 du fond du cabaret, cessèrent instantanément leurs grognements, leurs jurons et leurs coups de poing, se levèrent comme un seul homme et, d'un même mouvement, se trouvèrent tous portés autour du bravo. 12 mains crochues rampèrent sur la table vers les pistoles. « Là, là, mes agneaux, le premier qui bronche, 6 pouces de fer dans le ventre. Arrière, suppôt de Belzébuth! Là, les voyez-vous, mon digne seigneur? Des agneaux, de vrais agneaux, qui n'ont pas leur pareil pour étrangler ou poignarder le ruffian trop chargé d'écus sans même qu'ils s'en aperçoivent. Vous serez bien servi, mon honnête seigneur. La belle vous sera encarrossée au coin du petit musc avant qu'elle ait eu le temps d'achever son pater. » Une minute plus tard, la bande avait disparu. Les sept s'étaient glissés au dehors. La femasse régla la dépense, puis il sortit à son tour. La femasse se rendit au coin de la rue du Petit Musc, s'enfonça sous un auvent, s'incorpora à la muraille, se pétrifia et attendit. À 10 pas de lui, près d'une petite porte basse, stationnait un carrosse avec sa portière ouverte, le postillon, en selle sur le cheval conducteur, les rênes rassemblées, les éperons prêts. La femasse songeait. « Je rends ici à Monseigneur un de ses services qui n'ont pas de prix. Je pense donc que je ne dois en demander aucun prix. »« Non, Monseigneur, non, pas d'argent, je vous en prie. Ces choses-là ne se paient pas. » Plus tard, quand vous serez le maître du royaume, le petit Lafemas réclamera son salaire. Le petit homme se redressa dans son coin de nuit comme une bête malfaisante. Un sourire de terrible orgueil erra sur ses lèvres minces. Il y avait une demi-heure que Lafemas était là et il commençait à être inquiet. « Si ces brutes attendent encore, gronda-t-il, le petit marquis de Saint-Mars va rentrer à l'hôtel, et alors c'est la bataille, alors c'est peut-être la défaite. » « Ah, pourquoi n'ai-je pas le courage d'agir moi-même? Je sens que si j'étais brave, je serais bientôt... » Une ombre tout à coup se dressa devant lui, un être courbé dans une révérence narquoise, la plume de son chapeau balayait la boue. « C'est fait, monseigneur, » dit tranquillement cet être. Lafemas reconnut le chef des sacripants. Il tressaillit. « Ça, grinça-t-il, te moques-tu de moi? Je n'ai entendu aucun bruit. » « C'est fait, payé, » dit simplement le brave. « Je n'ai rien vu. Drôle, aurais-tu l'intention ?» Le brave saisit Lafemas par le cou et le poussa jusqu'au carrosse. Lafemas, à demi étranglé, jeta un coup d'œil dans l'intérieur et vit une femme, pieds et poings liés, bâillonnée. Il la reconnut sur le champ, c'était Marion Delorme. Alors il demeura saisi d'admiration, et ce fut lui qui se découvrit et s'inclina profondément devant le bandit. En même temps, il lui tendit une bourse pareille à celle du cabaret. Dans le même instant, 6 ombres surgirent et regardèrent la bourse de leurs yeux de braise qui luisaient dans la nuit. Le brave vérifia rapidement le compte, puis murmura « Quand vous voudrez, quand vous aurez besoin de moi, tout à votre service, vous savez où. » « Allons, mes agneaux, notre besogne est faite, décampons !» La bande s'évanouit avec une telle rapidité, dans un tel silence, que c'en était merveille. Lafemas, un instant, demeura tout effaré. Puis il ferma la portière du carrosse et s'apprêta à prendre place sur le siège. À ce moment, un cavalier mit pied à terre au coin de la rue. Dans le même temps, la petite porte devant laquelle avait stationné le carrosse s'ouvrit, et une voix de centaure se mit à hurler « Au secours! Au feu! Au meurtre! À la rescousse !» Déjà, Lafemas escaladait le siège. Mais comme le carrosse allait s'élancer, l'espion se sentit saisi par les jambes et ramené en arrière avec une irrésistible violence. C'était un cavalier qui, accourant au cri, venait de le harponner. « File !» vociféra Lafemas. Le postillon enfonça ses éperons dans le ventre de son cheval et la voiture s'ébranla. « Au secours! Au feu! Au feu! Au truand !» glapit la voix. « Tais-toi, braillard !» ordonna le cavalier qui venait de saisir Lafemas et le maintenait par la gorge. « Monsieur le marquis, ah, miséricorde! Ah, je... »« Lanterne, tu vas te faire étriller !» « Explique-moi ce que faisait ici ce carrosse, qui est cet homme et pourquoi tu cries comme un sonneur de cloche. » « Plût au ciel que j'eusse un tocsin à ma disposition. On vient d'enlever Madame la Marquise. » Henri de Saint-Mars jeta un cri terrible. À ce moment, le carrosse disparaissait au bout de la rue du Petit Musc, au coin de l'arsenal. Saint-Mars réfléchit que sa seule chance de rattraper la voiture, c'était d'interroger l'homme qu'il tenait. Dédaignant donc d'écouter les éloquentes et abondantes explications de Lanterne, il serra un peu plus fort la gorge de la femasse. « Tu en étais, toi » rugit-il. « Non, râla l'espion. Je passais, j'ai entendu du bruit, je... »« Tu en étais, » répéta Saint-Marc. « Avoue ou tu es mort. » Et il dégaina son poignard, dont il fit sentir la pointe au cou de la femasse. « Ne me tuez pas !» fit celui-ci d'une voix presque calme. « Je vais tout vous dire !» Saint-Marc desserra l'étreinte et cessa d'appuyer sur le poignard. La femasse, froidement, essuya une goutte de sang qui perlait à sa gorge, souffla bruyamment et dit « Rassurez-vous, il ne sera fait aucun mal à mademoiselle Marion Delorme. » « Qui l'a fait enlever ? Où la conduit-on ? Parle ! Tu as une minute pour te décider. Dans une minute, je le jure sur mon père mort, je te tue comme un chien enragé si tu ne dis tout. » Le jeune homme tremblait de fureur et de désespoir. On entendait claquer ses dents. La femme songeait. « Si j'avoue, Richelieu va me tuer. Si je n'avoue pas, celui-ci va me poignarder. Au moment où j'allais assurer mon avenir. » « Malédiction sur moi, sur Richelieu, sur Saint-Marc. Mourir maintenant, oh, l'affreuse damnation !»« Décide-toi, » dit Saint-Marc. Son bras se leva, l'acier jeta un éclair dans l'ombre. Un éclair moins sinistre que le sourire qui tout à coup illumina la face de l'espion. « Je ne puis rien vous dire, » fit-il. « Soit, tu vas crever ici, chien !»« Mais je puis vous conduire, » reprit la femasse. « Tu peux me conduire, » haleta Saint-Marc, « et vous faire entrer dans la maison même où se trouve Marion Delorme. Si tu fais cela, je t'enrichis, je te couvre d'or, entends-tu ? Eh bien, venez. De l'or, pour un peu d'or, j'ai fait enlever celle que vous aimez. Puisque vous me promettez beaucoup plus d'or que je n'en ai reçu, je ne vois pas pourquoi je ne vous la rendrai pas. » Ils se mirent en route. Saint-Marc grelottait. Il avait la tête en feu. Il ne savait ni ce qu'il faisait, ni où on le conduisait. Seulement, il serrait convulsivement le bras de la femasse. Ils arrivèrent et s'arrêtèrent devant un vieil hôtel. « C'est ici, » dit la femasse. « Allons, » répondit Saint-Marc fébrile. Si la femasse lui avait montré une fournaise, il serait entré dans la fournaise. L'espion souleva le marteau de la porte qui s'ouvrit. Ils entrèrent tous deux dans un beau vestibule du rez-de-chaussée. « Où sommes-nous ? » demanda Saint-Marc. « Chez Monseigneur l'évêque de Luçon, » dit la femasse. « Vous voyez que la belle ne court aucun danger. » Saint-Marc grinça des dents. « Richelieu, » fit-il dans un affreux éclat de rire, « j'aurais dû m'en douter. Conduis-moi chez ton maître. Allons, pas d'hésitation, ou je tue tout ici, toi le premier. » « Venez, » dit la femasse, « Monseigneur va vous recevoir tout de suite. » Il ouvrit une porte. Saint-Marc entra. Il n'avait pas fait deux pas dans la pièce où il venait de pénétrer qu'il entendit derrière lui la porte se refermer. Il se retourna, la femasse n'y était plus. Saint-Marc se rua sur la porte, la laboura à coups de poignard, s'y meurtrit les mains, s'y ensanglanta les ongles. Il déchira les tentures, il frappa sur les murs, il poussa des cris déchirants, et il comprit que ses cris s'étouffaient dans cette cage. Il vit qu'il n'y avait aucune ouverture par où il put fuir, excepté la porte de chêne bardée de fer, inexpugnable. Pendant 2 heures, le malheureux jeune homme se débattit ainsi. Il pleura, il supplia, eut des crises de fureur effrayantes et des minutes d'abattement mortel. Et enfin, tout sanglant, il tomba sur le parquet, à bout de force, et s'évanouit en murmurant « Marion, ma chère Marion !»